Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Le risque d'extinction de l'humanité, pas à cause du réchauffement climatique, mais à cause de l'intelligence artificielle. Anthony Morel, est-ce qu'on joue à se faire peur ce matin?
C'est le propos, en tout cas, d'une tribune qui a été signée par 350 personnalités du monde de l'intelligence artificielle, dont Sam Altman, le patron et le créateur d'OpenAI et de ChatGPT. Donc c'est quand même pas rien. Et ils alertent sur le risque d'extinction que l'intelligence artificielle ferait peser sur l'humanité. Je vais vous citer la phrase exacte parce que cette tribune, c'est une phrase en fait. Atténuer le risque d'extinction par l'intelligence artificielle devrait être une priorité mondiale, à côté d'autres risques sociétaux comme les pandémies ou la guerre nucléaire. Alors, de quoi ils ont peur précisément? La tribune est assez vague sur ce point. En gros, selon le communiqué qui accompagne cette lettre ouverte, la crainte, elle concerne le développement de futurs systèmes d'intelligence artificielle qui seraient beaucoup plus avancés que ceux d'aujourd'hui, beaucoup plus que ChatGPT, et qui pourraient mener l'humanité à sa perte. En gros, l'idée, ce serait que l'IA devienne plus intelligente, plus performante que l'être humain. Et là, on entre dans l'inconnu total. Est-ce qu'on pourrait décider, je sais pas, d'exterminer l'humanité? Enfin voilà, on peut imaginer tous les scénarios possibles et imaginables.
On réchauffe le climat.
On est nocif.
Voilà, les humains sont nocifs. L'IA pourrait décider de se débarrasser de nous. Il faut, dit cette tribune, qu'on ait la même discussion que les scientifiques nucléaires ont eu avant la création de la bombe atomique. Autre analogie avec le Covid. Les pandémies n'étaient pas dans notre radar avant le Covid. Il est important de mettre en place des garde-fous pour que l'IA ne nous prenne pas par surprise.
Évidemment, l'objectif, c'est de faire peur et ça fait peur. Est-ce qu'il y a un consensus parmi les scientifiques?
Alors, il n'y a pas du tout de consensus. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans la parano, parce que là, quand on écoute ce que je viens de vous raconter, on retourne se coucher, globalement. Non, il faut être clair sur le fait qu'il y a beaucoup de scientifiques, de chercheurs en IA qui pensent exactement le contraire. On va en citer un, il est français, c'est Yann Lequin. Yann Lequin, le patron de l'intelligence artificielle chez Meta, qui s'est un peu ému de cette tribune et qui essaye de pourfendre un peu les mythes autour de l'IA. Il tweetait hier soir, une intelligence artificielle surhumaine est très loin de figurer dans la liste des menaces existentielles. Elle n'existe pas. Lui, ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle globale, elle n'est pas plus intelligente qu'un chien. Donc déjà qu'on fasse une IA qui est plus performante qu'un chien, et après on jouera à se faire peur avec des scénarios à la Terminator. On n'en est clairement pas là.
J'ai posé la question à ChatGPT pendant que vous parliez.
Ah, c'est une bonne idée.
L'homme est-il nuisible?
Ouais.
L'homme peut être nuisible, mais cela dépend de la manière dont il s'agit et de l'impact qu'il a sur son environnement. Les actions irresponsables de certaines personnes peuvent causer des dommages à la nature, aux autres êtres vivants et à la planète dans son ensemble. Mais cependant, il est important de noter que l'homme est également capable de compassion, de créativité et de préserver le monde pour les générations.
Regardez.
Ouais. PS, je vais quand même m'en débarrasser.
PS. Bon, quand l'intelligence artificielle répond, ça dépend. Ça veut dire qu'on a encore un petit peu de temps.
Probable.
Merci beaucoup, Anthony Morel.
En attendant, l'IA affole les compteurs de la bourse, notamment avec Nvidia qui est officiellement rentré dans le club des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Antoine Larigauderie, c'est une consécration donc pour le fabricant de puces qui servent justement au cerveau de l'IA. Mais attention, pas mal de pression du coup, hein.
Oui, parce que quand on vaut quasiment 1000 milliards de dollars, qu'on est pricé 40 fois le bénéfice brut escompté cette année, qu'on a un PE de 230, c'est totalement fou, c'est 10 fois plus que le Nasdaq, qu'on a mis que 500 jours pour passer de 500 à 1000 milliards de dollars, un tiers de ce qu'il a fallu à Apple pour atteindre le même objectif, faut délivrer. Nvidia rejoint donc Google, Microsoft, Apple, Saudi Aramco et Amazon, les indétrônables. Mais on a connu des sorties retentissantes de ce petit club très célèbre. Tesla et Facebook, devenus Meta, et coïncidence, deux entreprises qui ont connu une véritable bulle spéculative dans leur modèle industriel même, chacune dans leur genre. Donc la principale inquiétude, c'est de savoir s'il n'y en a pas une dans celui d'Nvidia, qui s'appellerait surestimation des perspectives de l'IA générative. Mais Nvidia est une entreprise, encore une fois, qui a tellement su embrasser, souvent avec d'heureux hasards, des vagues technologiques comme l'informatique haute puissance, le gaming, la tech automobile embarquée, le minage de crypto, et maintenant l'IA, avec à chaque fois des produits qui se retrouvent au cœur des transformations, et l'intelligence système toujours comme liant, que le groupe garde tout son potentiel. Wall Street garde un œil aussi sur la concurrence. Bon, Intel et AMD, les géants généralistes, semblent totalement largués à ce niveau. C'est pas le cas de Broadcom, le spécialiste des puces intelligentes pourrait bien prendre le même chemin. Il sera encore long, sa valorisation tourne autour des 300 milliards pour le moment, mais comme pour Nvidia, on peut devenir un super géant macroéconomique très très rapidement.
Merci beaucoup Antoine, et à noter demain dans Tech & Co à 20h30, Serge Palaric, le patron de Nvidia pour la France, sera l'invité donc de Tech & Co.
Les autorités chinoises veulent faire revenir les entreprises étrangères après la pénible parenthèse du zéro Covid. Hier, Elon Musk a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères et Jamie Dimon était lui aussi en visite en Chine pour la première fois depuis 2019. Mais ce qui fait peur aux firmes occidentales, ce sont des raids. Et ça les inquiète vraiment dans un contexte de nouvelles lois anti-espionnage. À Pékin, Sébastien Lebelzik.
Oui, c'est la grande peur actuellement des managers étrangers ici, voir débarquer au petit matin les forces de sécurité chinoises pour fouiller de fond en comble les serveurs de leurs entreprises et parfois embarquer manu militari des responsables. Une mésaventure qui est arrivée ces dernières semaines à plusieurs sociétés de consultance nord-américaines comme Capvision, Bain et compagnie et Mintz. Ces firmes mènent des études de marché et de due diligence pour de gros investisseurs occidentaux, des recherches indispensables dans un pays où les données officielles ne sont pas toujours conformes à la réalité. Mais mettre son nez dans les secrets du parti, voilà qui peut mener tout droit à la casse-prison en vertu d'une nouvelle loi qui s'applique à tout document relatif à la sécurité et aux intérêts nationaux, une notion aussi large que floue. Capvision est ainsi accusé d'avoir dévoilé des secrets d'État. Preuve de la volonté du régime de mettre au pas les sociétés étrangères, c'est le tout-puissant ministre de la sécurité publique qui a été chargé par Xi Jinping lui-même d'orchestrer cette répression.
Merci Sébastien. Justement, en Chine, chez vous, l'activité manufacturière ralentit plus rapidement que prévu en mai. Les indices PMI font état d'un affaiblissement de la demande. Ça pourrait conduire le gouvernement chinois à évidemment augmenter le soutien public à la reprise économique.
L'inflation espagnole continue de ralentir au mois de mai pour revenir à 3,2% sur un an, alors qu'elle dépassait les 10% l'été dernier. En parlant justement de soutien public, Madrid n'a pas hésité à mettre la main à la poche pour se rapprocher de l'objectif des 2%. Étienne Henry.
C'est le bon élève de l'Union européenne. L'Espagne profite d'une baisse des prix des carburants et d'un ralentissement de la hausse des prix des produits alimentaires pour voir son inflation perdre 0,9 points par rapport à avril. Les mesures de soutien du gouvernement socialiste contribuent au ralentissement de l'inflation, note la banque ING. Madrid a signé un chèque de près de 50 milliards d'euros de soutien depuis plus d'un an. Ristourne carburant, augmentation du salaire minimum et réduction du tarif des transports publics pour aider les ménages face à la hausse des prix. Le gouvernement de Pedro Sanchez a réussi à obtenir de Bruxelles une exception ibérique permettant de juguler la hausse du prix de l'électricité. Mais la mesure phare avait été annoncée fin 2022. La suppression ou la baisse de la TVA sur les produits alimentaires de première nécessité. Des mesures coûteuses, financées en partie par la création d'impôts sur les résultats exceptionnels des énergéticiens et des banques.
Et puis les négociations qui se tiennent à Paris sous l'égide de l'ONU pour tenter de trouver une solution à la pollution plastique n'avancent pas vraiment. L'Arabie Saoudite et plusieurs pays du Golfe, ainsi que la Russie, la Chine, l'Inde ou encore le Brésil, refusent que le futur traité soit approuvé par un vote à la majorité des deux tiers. Ils veulent évidemment un consensus. Pour le moment donc, avec ce blocage sur la forme, les discussions n'avancent pas. On va parler de solutions concrètes pour essayer de réduire notre consommation de plastique. Avec notre invité à 7h20, c'est Su Zhang, cofondatrice et présidente de Pandobac.
Un grand pas de plus vers le développement de l'éolien en mer en France. Le projet de parc Provence Grand Large prend forme à Fos-sur-Mer. La mise à l'eau du premier flotteur a été concluante. Les exploitants EDF et le Canadien Enbridge prévoient leur mise en service début 2024. Thomas Schnell avec Ariane Pollert de BFM Marseille.
Une grande pyramide de 45 mètres de haut et 80 mètres de large. La structure imposante permettra, une fois fixée en mer à 17 km des côtes, de porter l'une des trois éoliennes de 90 mètres de hauteur. Au total, 1700 tonnes seront ancrées à une centaine de mètres de profondeur grâce à une solution développée et brevetée, explique Hervé Cariou, directeur de projet SBM Offshore.
L'intérêt de ce genre de flotteur avec des lignes tendues, c'est la stabilité. C'est vraiment la stabilité du flotteur et du coup, ça améliore la performance de l'éolienne en elle-même.
Le raccordement au réseau électrique de RTE permettra à ces éoliennes, d'une puissance de 8,4 MW chacune, de participer à la transition énergétique, estime le directeur de la construction, Sébastien Tessier.
Les trois éoliennes installées font espérer une production d'électricité équivalente à celle d'une ville de 45 000 habitants sur un an. Donc ça correspond à la ville de Martigues.
Le potentiel économique est colossal pour le territoire. Sur ces sites pilotes, la région sud estime les retombées potentielles à 60 millions d'euros avec la création de 200 emplois directs et 500 indirects.
Keolis brise le monopole de la RATP. La filiale de la SNCF a remporté l'exploitation des futures lignes 16 et 17 du métro du Grand Paris, annonce hier soir d'Île-de-France Mobilité. Ces deux lignes actuellement en construction en Seine-Saint-Denis, dans le Val-d'Oise et en Seine-et-Marne, doivent ouvrir à partir de la fin 2026.